7 ans, on a mis 134 873 piastres là-dessus, taxes incluses. Et ça, ça, c'est la recherche et c'est les frais d'expertise qui ont suivi après pour essayer d'être capable de se servir du puits. Ça a l'air qu'on pourrait voir le bout de cette affaire-là avant la fin de l'année, parce que là, on est rendu à faire des tests de d'autres surfaces, la pénétration des autres surfaces dans ce puits-là. Pas drôle, tu sais.
170 000 pour une petite municipalité.
134 873.
Pour une ville comme Rivière-du-Loup, c'est rien, mais pour une petite municipalité, oui, c'est beaucoup.
Oui, mais t'as pas de résultat encore. C'est ça l'affaire.
C'est de voir le niaisage que, oui, ça fait. C'est normalement, on dit toujours, ah, si ça concerne la santé publique, ça sera pas long. Le gouvernement va statuer. On va, oui, mettre le pied à terre. Oui. Regarde, là. Enfin, oui. 7 ans.
7 ans, quand même. Et j'imagine que si ça avait été urgent, ça aurait pas été plus vite, là.
Oui.
Mais c'est quand même 7 ans de frais engagés. Puis M. Daris me disait au téléphone hier, écoute, à un moment donné, on est obligé de se dire qu'on en rit, là. Il dit, écoute, il dit, il y a des nouveaux membres du conseil, là, qui, depuis qu'ils sont arrivés, ils entendent parler de ça. Puis ça s'était passé dans l'autre génération de conseils d'avant, tu sais, au début de l'autre génération du conseil d'avant. Fait que là, on est rendu à un conseil de passé, plus des élections qui s'en viennent au mois de novembre, puis il y en a qui sont au conseil présentement, qui ont entendu parler de ça durant tout leur mandat, puis ça avait commencé dans le mandat précédent, puis c'est pas encore réglé.
Ça, c'est un cas qu'on connaît,
oui,
sur lequel on a travaillé. Puis, oui, il y en a des dizaines comme ça à la Gare du Québec.
Là. Ah oui, puis dis-toi qu'on est tombé là-dessus par hasard. Là.
Ouais.
Complètement par hasard sur cette information-là qui partait d'un dossier que tu avais toi-même traité en 2018. Juste, j'essaie de voir si je me suis envoyé le courriel concernant le 6 du Bas-Saint-Laurent, puis non, je viens de m'apercevoir que j'ai eu l'intention, mais je ne l'ai pas fait, mais je vais travailler de mémoire. Concernant les 11 médecins qui vont faire leur externat en région sur les 17 finissants de la formation en médecine à Rimouski, il y a un médecin ou une médecin là qui va aller dans le Témiscouata. Il y en a pas 3-4, là, il y en a une. Il y en a pas à Rivière-du-Loup, ils peuvent aller où ils veulent, ces médecins-là, ça leur est permis, mais à Rivière-du-Loup, il y en aura pas. J'avais posé une question aussi concernant les ressources en ophtalmologie à Rivière-du-Loup, parce qu'on sait qu'il y a de la place pour 3 ophtalmologistes. Présentement, il n'y en a rien qu'une. Il en manque encore 2. On a beau faire du recrutement, on réussit pas à attacher quelqu'un qui dit « Oui, je m'en vais à Rivière-du-Loup, là, maintenant. » Paraît-il qu'il y aurait une personne intéressée à venir en ophtalmologie à Rivière-du-Loup, mais on n'est pas capable de donner de date. Alors, c'est probablement quelqu'un qui a dit « Oui, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. » Puis quand on lui a demandé quand, la personne a répondu « Je ne sais pas. » Mais là, on en est rendu à faire en sorte que, et ça, c'est le 6 du Bas-Saint-Laurent qui le dit, là, c'est pas moi qui invente ça, c'est que ce qui s'en vient, c'est de proposer à des personnes qui sont traitées à Rivière-du-Loup, ou qui devrait être traité à Rivière-du-Loup, d'aller se faire traiter à Montmagny. C'est là que c'est rendu. On l'a noir sur blanc. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que tu peux pas demander à une ophtalmologiste, en l'occurrence, ici, on parle de la docteure Chergui, tu peux pas demander à une personne de faire l'ouvrage de 3, de temps en temps, d'avoir un peu d'aide qui vient de l'extérieur. Il faut que tu sois capable de délester ta charge de travail. Sinon, c'est le burn-out qui t'attend.
Mais Daniel, tu ne règles pas ton problème. Si tu envoies les patients à Montmagny, tu ne règles pas le problème de Rivière-du-Loup.
Non, non.
Le gouvernement va être bien content. Il regarde, bon, ils ont trouvé une solution. Ouais. Il envoie ce qui déborde à Montmagny.
Ouais.
Mais ça ne donne pas plus de spécialistes à Rivière-du-Loup. Faut nécessairement. D'ailleurs, on l'a vu avec Saint-Hubert, Daniel, hein? On cherchait des médecins, des cliniciennes. On a presque déroulé des ponts d'or. Ben, moi, je pense que tant que le gouvernement, ne mettra pas son pied à terre avec des incitatifs, très avantageux pour sortir les médecins spécialistes des grands centres puis des envoyés en région.
Ouais.
On va passer notre temps à courir, le chien va courir après sa queue tout le temps.
Ouais.
Tout le temps. Ça va prendre des incitatifs autres que dire, ben, on est dans une belle région avec des lacs.
Ouais.
Puis avec des couchers de soleil. Ça va prendre de l'argent pour déplacer ces gens-là.
De l'argent ou plus d'argent. Tu comprends? Parce qu'il y a probablement déjà des incitatifs pour aller travailler en région. Est-ce qu'on en fait partie? Je ne sais pas. Mais d'après moi, un médecin, si une infirmière qui va travailler sur la Côte-Nord est mieux payée que quelqu'un qui travaille à Québec, d'après moi, un médecin qui va travailler dans certaines régions du Québec est mieux payé qu'un médecin qui travaillerait à Montréal ou à Québec. Il me semble avoir déjà entendu ça, mais bon, on en parle à brûle pour point, donc on n'a pas toutes les informations en main. Un nouveau pape, mon cher Gilles.
Oui.
Comment il s'appelle, donc, Robert? Ça finit par Prévost.
C'est le cardinal Robert F. Prévost.
Robert F. Prévost. On dit que c'est un Italo... un Italo-américain, mais dont le père est français, quelque chose comme ça. Là, il y a du...
Et la mère est américaine.
Ben, il y a du français d'un bord. Ouais. D'un bord, mais il n'a pas l'air d'avoir retenu beaucoup, parce que quand on l'a entendu parler, je dirais baragouiner quelques mots en français à l'heure du midi, mettons que son cours de francisation n'était pas à jour.
Oui, ben, il a suivi avec le président d'Air Canada. Il était sur la même cohorte. Mais Daniel, il a pas parlé anglais plus non plus.
Oui, oui, oui.
Il n'a pas parlé un mot d'anglais.
Ouais.
Moi, je pense que c'est le contexte...
Peut-être.
Le contexte économique présentement.
Ouais. On a entendu de l'italien, un peu de latin, puis...
L'espagnol. De l'espagnol. Parce que imagine-toi un seul instant là, qu'il commence à parler un petit peu en anglais sur la place Saint-Pierre, puis on entend des huées.
Oui.
Oh, ça n'aurait pas été l'endroit pour le temps, là.
Oui.
C'est pour ça que le français, il le maîtrise pas. Puis la langue anglaise, il ne l'a pas employée du tout. Je suis persuadé qu'il parle mieux anglais que toutes les autres langues. Puis M. Trump, lui, très heureux. Il va probablement revendiquer la paternité de tout ça.
Il dit qu'il
a hâte de le rencontrer, puis on fait des belles choses ensemble.
Absolument. Ah. Puis probablement qu'il va dire qu'il l'avait prévu. Lui-même, c'était déguisé en pape.
Et j'en suis rendu à me demander, Daniel, si c'est pas un pape de stratégie.
Oui.
Non. Daniel.
Ça peut faire partie de la conversation.
Oui, les cardinaux, là, oublions pas, c'est un gros gouvernement là qu'on a à Rome là. C'est un gros gouvernement, puis ces gens-là carburent à la politique internationale, puis à la politique mondiale. Puis rappelle-toi, ces gens-là, lorsqu'on parlait de la Banque du Vatican, c'était la banque la plus importante au monde. Il y a beaucoup de politique là-dedans. C'est pour ça que l'arrivée du cardinal Prévost, ça n'enlève rien à ses qualités puis ses qualifications, mais pour moi, c'est un pape stratégique.
Ah, ça se peut très bien. Stratégique dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Dans le bon sens, que s'il y a un représentant de l'Église catholique capable de maîtriser les folies à M. Trump, c'est lui.
Peut-être. Ben, en tout cas, souhaitons-le. Probablement qu'il va s'essayer. On verra ce que ça va donner. En tout cas, dans le champ d'intérêt qui le préoccupe. Et peut-être aussi dans un champ d'intérêt dont on se doute moins, qui est celui de la finance.
Ouais.
Quand tu parles de la Banque du Vatican, c'est quand même pas une banque de pauvres. Là.
Non.
On n'est pas au premier balbutiement de M. Desjardins, Alphonse, tu comprends? J'ai le goût de te dire, Gilles, parce que je veux partager ça avec les auditeurs, toi t'en sais déjà un petit peu, c'est que quand tu te mets les pieds dans un plat, t'as aucune idée jusqu'où ton calvaire pourra se poursuivre. Et là, je fais référence, on va appeler ça une bourde de Michel Germain, le descripteur de l'Océanique. Bon, c'est le septième match, l'Océanique élimine Shawinigan.
Hein? Oui, les Cataractes.
Shawinigan. Là, il y a trois joueurs de 20 ans là-dedans, c'est leur dernier match, et Germain les nomme, puis nomme les trois gars, puis dit « Bonsoir, ils sont partis ». Là, on s'empare de ça, les partisans des Cataractes s'emparent de ça. Moi, j'ai commenté, toi, t'as commenté. Bon, Michel Germain s'excuse. Puis là, tu sais, je me mets à sa place parce que moi aussi, je me suis déjà mis dans le trouble, tu comprends-tu? Là, tu fais ce que t'as à faire. Tu fais tes représentations. Puis là, tu te dis, OK, là, m'a faire le mort pendant une couple de jours, tu sais, puis ça va se tasser, puis après ça, on va arrêter d'en parler. Mais des fois, là, t'as quelque chose qui t'arrive du champ gauche que tu l'attendais pas, mais pas pantoute. Et il y a quelqu'un sur Facebook, j'ai vu ça cet après-midi, qui s'est commis dans un long texte. La prémisse du long texte, ce serait comme de dire au monde, calmez-vous les nerfs, c'est rien que du hockey. Si ce n'était que ça, on pourrait dire à ce gars-là, ben on te donne tort ou on te donne raison, puis on va écouter tes arguments. Mais c'est qu'après ça, là, il descend le hockey junior majeur. L'utilisation qu'on fait des jeunes. Il dénonce qu'on ne les... Ils gagnent même pas le salaire minimum. Qu'on vend des effigies à leur nom, des chandails, que ça leur donne pas une scène, que les équipes junior majeures siphonnent de l'argent aux municipalités, au gouvernement, qu'on a même passé des lois pour les... Écoute... Moi, mettons que je m'appelle Michel Germain, là, je me dis non. Là, j'avais pas besoin de ça, là. Parce que non seulement ça servirait contre moi, non seulement ça a éclaboussé mon employeur parce que je suis payé par l'Océanique, mais là, c'est en train d'éclabousser la Ligue au complet. La Ligue au complet! Fait que là, là, t'as quasiment le goût de dire, bon, allez me coucher, puis vous me réveillerez quand ça va être fini, là. Non, sérieux!
Oui. Et Daniel, t'as tellement raison là-dedans, et puis je sais pas si t'as vu passer ça également, concernant cette rencontre-là, cette septième rencontre-là. Semble-t-il, ben, en fait, pas semble-t-il, avant que survienne le but gagnant par l'Océanique. Il y avait un joueur de l'Océanique qui avait touché une rondelle plus haut que la limite permise en zone défensive. Et puis même les officiels n'ont pas eu le droit d'aller à la reprise vidéo parce que c'est un règlement qui était interdit si tu touches à la rondelle, semble-t-il, en zone défensive. Là, je rentrerai pas dans les détails. Et même après le match, le jeu qui a suivi ça, c'était le but victorieux. Oui. Et après le match, les officiels ont été dans le vestiaire.
Ben oui, on discutait de ça de l'autre côté du mur ce matin.
Ils s'excusaient que le but n'aurait pas dû être bon, mais qu'ils ne pouvaient pas aller en reprise.
Ouais.
T'as trois jeunes là, qui viennent de se faire humilier par la radio de l'Océanique. Puis l'arbitre en chef va lui dire en plus que le but gagnant n'aurait pas dû être donné. Ça va-tu mal pour venir à Chamonix?
Ouais, mais il paraît que la... Comment je te dirais bien ça, donc? Que les excuses des arbitres et les explications des arbitres ont quand même bien passé. C'est-à-dire que on a aimé mieux ça que de se faire dire non, il n'y avait pas de hockey parce que les arbitres ont vu les reprises vidéo. Là,
oui.
Puis il semblerait qu'on a compris quand même que dans le feu de l'action, puis si on n'avait pas le droit d'aller voir la reprise, ben coudonc, ça peut arriver là, que l'œil humain en manque une de temps en temps, mais là, c'est arrivé à un bien mauvais moment. Maintenant.
Pardon, monsieur, vous dites de temps en temps? Est-ce que vous suivez les séries de la Coupe Stanley, vous?
Non, mais...
Ça n'a pas de bon sens.
Non, mais Gilles, voyons. Ça a tout le temps été de même, Gilles. Voyons-tu?
Mais c'est pire dans les séries.
Oui, je comprends, mais tu le sais, là, toi puis moi, là, t'es un peu plus vieux que moi, là, mais depuis le temps qu'on a traîné nos fesses dans les arénas, puis que ce soit la Ligue républicaine, la Ligue nord-américaine, la semi-pro, la Junior B du Bas-Saint-Laurent, nomme-les! L'arbitrage, c'est un cas en soi.
Ouais.
C'est un cas en soi. Alors, moi, ça fait longtemps que je m'occupe plus de ça, là. Quand je vois, là, mettons comme toi, là, tu sais, tu parles de l'arbitrage, là, je me dis, c'est de génération en génération. Ça n'arrête pas, là. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que tes petits-enfants, ils vont parler de l'arbitrage. Puis tes arrière-petits-enfants, ils vont parler de l'arbitrage.
J'ai des petits-enfants qui suivent le hockey. Puis
ils parlent de l'arbitrage?
Ils dénoncent.
Bon, vois-tu, c'est déjà... ils font comme pépère.
C'est déjà rendu là.
OK, on est rendu à 15:58. Ça avance vite. Jacinthe Maurice, on lui parle cet après-midi. C'est une chronique qu'on a enregistrée ce matin parce qu'elle n'était pas disponible cet après-midi. Et comme c'est un sujet qui était très intéressant pour moi parce qu'on l'avait abordé hier, Gilles, en parlant justement des procès là, des joueurs de hockey pour agression sexuelle. Tu te rappelles, hier, on a parlé, j'ai dit, comment on fait pour tenter d'avoir la vérité s'il y a certaines questions qu'on ne peut pas poser ou certaines insinuations qu'on ne peut pas amené dans le contre-interrogatoire de la défense. Et Jacinthe va nous expliquer ça quand même très bien, mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à la fin de la chronique qu'on entendra tout à l'heure, c'est que la ligne, elle est extrêmement mince et que ça doit se jouer par objection, soit de la couronne, soit de la défense, par rapport aux questions qui sont posées, et surtout une vigilance de tous les instants de la personne qui est sur le banc, c'est-à-dire le juge ou la juge, pour dire objection acceptée ou objection refusée, parce que sinon, d'arbitrer un procès juste et équitable en matière d'agression sexuelle, ça devient très compliqué malgré des nouvelles normes qui ont été apportées justement pour éviter que des victimes se transforment en coupables.
Ben moi, je pense que dans ce cas-là, Daniel...